Divergence FM, l'interview.
Alors bonjour Benjamin Michalet.
Bonjour.
Et bonjour Najat Vallaud-Belkacem. Vous êtes au téléphone avec nous et Benjamin est dans notre studio. Alors on est au studio de Divergence à Montpellier et on est ravis de vous avoir tous les deux parce que vous allez nous présenter un livre que vous avez co-écrit. Alors ce livre s'appelle « Réfugiés, ce qu'on ne nous dit pas ». Alors si vous voulez bien, on commence avec vous, Madame Najat Vallaud-Belkacem. Dites-nous comment est venue cette idée d'écrire ce livre sur ce problème ou cette solution.
Bonjour tout le monde et désolé de ne pas être physiquement avec vous, j'aurais été ravie. Mais la raison pour laquelle on a voulu écrire ce livre avec Benjamin Michalet, c'est qu'on s'est vite rendu compte dans nos conversations qu'on avait des complémentarités des regards, disons, assez dissonants par rapport à ce qu'on entend dans le débat public sur cette question des demandeurs d'asile, des réfugiés, des politiques migratoires. C'est-à-dire que dans le débat public, en fait, on entend beaucoup de choses généralement pas très sérieuses, très caricaturales.
Et pas très sympathiques, souvent.
Pas très sympathiques, évidemment, tendant toujours plus à l'exclusion, au rejet des nouveaux venus sur le territoire français ou européen, pour aller vite, qu'ils soient d'ailleurs des immigrés économiques ou qu'ils soient des réfugiés qui fuient leur pays pour cause de violence ou de persécution.
Et même climatique maintenant.
Et donc, en gros, le débat public est fait de ça et généralement, il n'est pas très documenté. C'est-à-dire qu'il ne s'appuie jamais sur des données réelles ou de la science avérée ou des études, de la recherche. Et là où nous nous sommes sentis complémentaires, Benjamin et moi, c'est que lui est un chercheur, spécialiste de ces questions-là, capable d'identifier à l'échelle mondiale toutes les études qui ont été menées sur ces questions-là. Et moi, je suis une praticienne, présidente de France Terre d'Asile, capable de vous raconter en détail comment ça se passe pour un demandeur d'asile quand il est sur le territoire français, à quoi il a le droit, à quoi il n'a pas le droit en vérité, comment c'est compliqué, capable aussi de décrypter les décisions prises au niveau européen, car beaucoup de choses dépendent aussi du niveau européen.
Bien sûr.
Et donc, du coup, on a mis tout ça ensemble dans ce livre.
Voilà, écoutez, en fait, je plaisante un peu, mais en fait, vous êtes des vrais experts. Parce qu'il y a tellement de faux experts qu'on sollicite pour tout et n'importe quoi sur les médias. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose. Maintenant, quand on est dans les médias, il y a beaucoup d'experts. Mais d'experts, on ne sait pas quels qu'ils sont. Quoi. Ils ont des expertises sur tout. Alors là vous avez vos expertises, que ce soit Benjamin ou vous, sur cette question, parce que vous êtes des experts. Quoi. Contrairement à la plupart des gens qui parlent sur nos ondes ou sur les télévisions, tout ce que vous voulez bien, et qui s'auto-proclament experts. C'est bien ça, hein?
Alors, je ne sais pas si c'est une question pour moi ou pour
Benjamin. Non, monsieur, c'est une remarque, ce n'est pas une question.
D'accord.
Vraiment. C'est vraiment une remarque. Par contre...
Non, mais en tout cas, simplement pour rebondir sur votre remarque, simplement, il faut que les citoyens aient conscience, en effet, de la différence entre des gens qui travaillent les sujets, qui les analysent, qui ont une démarche d'investigation. Benjamin saurait encore mieux en parler que moi en tant que chercheur.
Il en parlera.
Un chercheur, si vous voulez, le travail de recherche, ça s'improvise pas. Il y a des protocoles, on ne peut pas, et de la même façon qu'on le décrit longuement dans le livre, on ne peut pas mettre sur le même plan un sondage d'opinion. Posé d'une façon qui parfois peut être complètement influençable, etc. Une véritable enquête menée par des chercheurs. Donc, je pense que les citoyens doivent avoir conscience que la politique migratoire et la politique d'asile, dont on dira tout à l'heure que ce sont vraiment deux choses différentes, mais ces deux sujets-là qui sont devenus des sujets absolument centraux du débat public, en réalité, doivent être traités comme des politiques à part entière, c'est-à-dire cesser de n'en faire qu'un instrument pour grignoter des votes, des voix, des points dans les sondages et penser enfin sérieusement aux solutions, aux réponses que ces phénomènes appellent, évaluer nos politiques publiques pour les améliorer au fur et à mesure, permettre justement à des chercheurs de travailler sur toutes les données qu'on a sur ces politiques migratoires, ces individus dont il est question. tout ça dans un objectif simple, finalement dans l'intérêt à la fois de la société d'accueil, des individus en question, de notre économie, de notre sécurité. Vraiment, pour obtenir tous ces résultats-là, il n'y a rien de mieux que de prendre au sérieux ces politiques-là et de ne pas se contenter d'en faire un sujet de polémique.
Oui, et puis aussi, faut voir la richesse que représente cette arrivée sur notre territoire. On nous dit toujours que c'est « attention, on est envahi » et tout ce que vous voulez bien, mais c'est aussi une grande richesse pour notre pays.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, dans le livre, on distingue bien ce qui relève de la politique migratoire, c'est-à-dire la migration volontaire. Les gens qui viennent dans notre pays, sur notre continent, parce qu'ils veulent y étudier, ils veulent y travailler, ils s'y marient avec des ressortissants de chez nous, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la migration volontaire. Ils ont un projet, un choix. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle les déplacés forcés. Et ça, c'est vraiment de la migration involontaire, dans le sens où les gens qui fuient chez eux parce qu'ils encourent un risque imminent pour leur vie, honnêtement, ils ont d'abord pensé à fuir chez eux. Ils n'ont pas de projet précis d'arriver dans tel ou tel pays. Ce qui explique pourquoi ce sont des gens qui, généralement, ne pratiqueront pas la langue, ne parleront pas la langue du pays dans lequel ils arriveront dans un état extrêmement épuisé, qui appelle vraiment de l'aide, en gros. Et en fait, dans le débat public, on mélange ces deux figures-là pour donner des très très gros chiffres, parce qu'on met tout, quoi, des carottes et des choux dans un même sac, et faire peur et faire monter l'anxiété. Mais en réalité, ce que les citoyens doivent comprendre, c'est que d'abord, les déplacés forcés, donc ceux qui arrivent dans cet état vraiment exténué, etc.
Ils ont traversé la Méditerranée, par exemple.
Exactement, qui ont encouru vraiment des risques de fou sur leur trajet. Ceux-là, en fait, ils sont assez peu nombreux. Ils représentent un petit nombre, ce sont 130 000 personnes qui sont arrivées dans ces conditions-là en 2024, et parmi elles, toutes n'obtiennent pas l'asile à la fin. Il y en a 70 000 qui deviennent réfugiés.
Et puis il y en a qui ne veulent même pas, qui veulent aller dans d'autres pays. C'est pas forcément la fin du voyage pour eux, la France.
Absolument, notamment ceux qui cherchent à rejoindre la Grande-Bretagne, par exemple. Mais ça, il faut quand même que les citoyens aussi comprennent une chose qu'on raconte dans notre livre, c'est que malheureusement, on ne laisse pas la possibilité à ces demandeurs d'asile de choisir l'endroit où ils atterrissent. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on leur impose, je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques, mais il faut lire le livre pour comprendre notamment ce qu'on appelle le protocole de Dublin. Mais on leur impose, en gros, de rester dans le premier pays d'entrée.
D'Europe, premier
pays d'entrée. Exactement, et s'ils cherchent à passer dans un autre pays, alors on va leur dire, puisque vous avez fait ça, vous ne serez pris en compte aucunement par les autorités, et donc vous resterez à la rue, vous ne serez pas hébergé, votre dossier ne sera pas instruit. Bref, entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on a accueilli les Ukrainiens, en revanche, là, on leur a laissé la possibilité de choisir le pays dans lequel ils atterrissaient, et on s'est rendu compte que c'était beaucoup mieux, que c'était paisible de procéder comme ça.
Et puis ça fait une intégration beaucoup plus réussie, on peut dire.
Exactement,
aussi,
puisque dans ces cas-là. Bien sûr, parce que les gens, ils vont choisir, non pas, contrairement à ce que raconte le débat public en permanence, ils vont pas choisir en fonction du niveau de prestation sociale, ils vont choisir en fonction de leurs affinités, c'est-à-dire du fait qu'ils ont une vague connaissance déjà de la langue du pays en question, le fait qu'ils se sentent vaguement proches de la culture du pays en question, le fait qu'ils aient vaguement des gens de leur village ou de leur pays dont ils savent qu'ils sont déjà installés là-bas. Donc c'est ce qu'on appelle les affinités, en fait. Et ces affinités-là, évidemment qu'elles comptent à l'échelle de la vie d'un individu pour améliorer son intégration.
Ouais, c'est du bon sens que vous dites. Alors si vous voulez bien, Benjamin va pouvoir participer à la...
Benjamin.
Vous pouvez rester avec nous. Vous pouvez rester avec nous. Mais Benjamin va aussi pouvoir participer à cette discussion autour de votre livre, donc Réfugiés. Ce qu'on ne nous dit pas, Benjamin, alors on ne nous dit pas grand-chose, c'est ça en gros.
Alors, on nous dit assez peu de choses, et puis surtout, ce qu'on nous dit, c'est souvent infondé, c'est souvent manipulé, et donc je rebondis sur les propos qu'a pu tenir Najat tout à l'heure, qui sont que avoir une démarche de recherche, c'est d'abord avoir une démarche qui n'est pas idéologique.
Oui, un chercheur, il prend du recul quand même. Hein. Il regarde. Et vous êtes un chercheur en sociologie, on peut dire, ou...
Alors moi, je suis économiste. Mais on travaille avec la même idée, c'est-à-dire prendre les données qu'on a à notre disposition ou aller en récolter pour essayer d'analyser un phénomène, le qualifier. Et ensuite, derrière, faire une proposition de politique publique, par exemple.
Oui, on comprend bien. Donc, ce recul, tout ça, c'est un travail donc, de chercheur. Et vous ne cherchez pas à orienter, vous cherchez à...
Documenter.
À documenter. Ouais, et ceci, grâce à ce livre, c'est pour l'ouvrir aussi à nos concitoyens, aux citoyens qui n'y connaissent pas grand-chose et puis qui sont noyés par de nombreuses fausses informations.
Absolument. En fait, en réalité, ce qu'on ne nous dit pas, donc on a accouché de ce titre après beaucoup de réflexions. Et donc, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que, d'une part, il existe beaucoup de recherches sur le sujet, que cette recherche, elle ne va pas dans le sens du débat public actuellement. Donc, on espère que le débat public va s'orienter différemment. Ça paraît fondamental. Ce qu'on ne nous dit pas, Najat l'a très bien rappelé, c'est qu'il existe une différence fondamentale entre ce qui relève de la politique migratoire et ce qui relève de la politique d'asile. Et ça, c'est absolument fondamental de le comprendre, puisque la politique migratoire, elle est là pour aller dans les intérêts de l'État qui la met en place. Et c'est bien légitime d'avoir une politique qui a l'objectif de faire venir des talents, de stimuler notre économie, contribuer à notre démographie.
Il nous manque beaucoup de main-d'œuvre dans certains domaines, donc pourquoi pas.
Exactement, il nous manque de la main-d'œuvre. Et puis, même quand il nous manque pas de main-d'œuvre, ça peut être intéressant d'avoir des talents qui viennent stimuler l'innovation, qui viennent apporter de la diversité.
Créer des entreprises, des fois, ou des commerces.
Absolument. Donc ça, c'est ce qui relève de la politique migratoire. Tout comme le fait d'accueillir des étudiants, ça contribue au rayonnement international de la France, de la francophonie, c'est très important. Et ce qui relève de la politique d'asile. Et donc, ce qui relève de la politique d'asile, c'est une transcription dans le droit français de grandes valeurs et de grandes décisions qu'on a prises au niveau international après la Seconde Guerre mondiale. Et nous, on pense que c'est très important de bien distinguer ces deux politiques-là, parce que ce qu'on pense, en fait, le débat public actuellement a tendance à le démontrer, c'est que la politique d'asile et les personnes qui cherchent asile ont quitté leur pays sous la contrainte.
Sous une contrainte, qu'elle soit, on en a discuté déjà un petit peu, c'est souvent sur des contraintes diverses et variées.
Absolument.
Mais bon, de toute façon, s'ils viennent ici, c'est pas pour rien.
Absolument.
C'est pas parce qu'ils ont dit un bonjour, tiens, je vais aller en France. C'est pas tout à fait ça.
Non, absolument. Et puis, c'est pareil, ces questions relèvent de questions juridiques, donc c'est souvent assez complexe. Et dans le livre, on s'attache justement, dans une première partie, à un peu décomplexifier tout ça, pour rétablir les périmètres de la politique migratoire d'une part et de la politique d'asile.
Qu'on soit, nous, les citoyens, pas perdus dans tous ces concepts, etc. C'est ça.
Exactement. Mmh. Et puis ensuite, ce qui est important de savoir, c'est qu'obtenir l'asile en France, eh bien en fait, en réalité, c'est une procédure, c'est un processus qui est assez long. Il faut apporter un grand nombre de témoignages, de documents. C'est toujours difficile quand on quitte son pays dans une situation de conflit.
On n'a pas le temps de prendre des photos.
Exactement.
C'est difficile. Hein.
Bien sûr. Je pense que j'ai grandi à Sommières.
Ah oui, vous êtes d'ici.
Oui, et typiquement, je pense que je me souviens très bien d'une période dans les années 2000 où il y a eu des inondations massives et d'un coup, tout le monde doit partir. Bon, quand on doit partir, quand on a de la chance, on a les documents qui sont prêts quelque part.
Hein, le virdoul qui monte. Hein,
le virdoul qui monte d'un coup. Faut imaginer ces situations d'urgence où d'un coup, on est submergé par un conflit, on est submergé par...
Climatique.
Alors ça c'est un gros sujet, j'y viens juste après, mais donc en fait quand on part en urgence, évidemment on n'a pas forcément son passeport avec soi de côté quand on a un passeport. Oui. On rappelle dans le livre qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de passeport. Aux États-Unis c'est massif.
Ah oui.
Évidemment. Et donc bien sûr on part pas avec ses diplômes sous la main, etc. Sur la question climatique, ça c'est fondamental, c'est un vrai sujet dans le livre. Ce livre-là, il vient aussi rétablir l'importance de notre position, nous, en tant que Français et Européens, sur la scène internationale. La question des demandeurs d'asile puis des réfugiés, c'est une question aussi éminemment internationale. Bien sûr, il y a les conflits d'une part. Et ensuite, il y a tout un tas de questions de développement qui sont fondamentales et contre lesquelles il faut continuer d'avoir une politique active. Et donc ça, on vient le rappeler aussi dans l'ouvrage. Et la question climatique, sur ce point, c'est très important. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'obtenir le statut de réfugié pour des raisons climatiques. Juridiquement, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et donc, je vous l'ai dit, moi, je suis économiste, mais je travaille également à la Cour comme juge assesseur.
D'accord.
Donc on reçoit évidemment des demandeurs d'asile qui viennent attaquer la décision de l'administration, qui ont une deuxième chance, entre guillemets, pour voir réexaminer leur dossier. Et donc aujourd'hui, les questions climatiques, ce qu'elles peuvent faire, c'est que des gens qui se déplacent pour des questions climatiques, ils vont faire face à des problématiques par exemple, de pression sur le foncier. Le cas du Bangladesh, c'est un bon exemple.
Ah oui, le Bangladesh, on sait bien, cet énorme pays, hein, qui, 300 millions.
C'est un très grand pays, mais surtout qui est très proche de la côte et qui a un vrai risque de submersion.
De submersion.
Et donc ça, ça déplace les personnes à l'intérieur. Et ce déplacement-là, évidemment, ça augmente la pression sur les terres, ce qui est normal. Ouais. Et ça va stimuler les conflits ethniques, ça va stimuler les conflits sur les
et
ressources.
Et les voisins, bien sûr, qui vont recevoir en premier les
absolument,
réfugiés.
Hein, absolument. Donc c'est par cette entrée-là, aujourd'hui, qu'on peut parler de réfugiés climatiques, mais ils ne vont pas obtenir la protection pour des raisons climatiques immédiatement.
Ouais.
Donc ça, c'est un très grand sujet, très important, et ça appelle une compréhension des enjeux internationaux sur ce sujet-là, puisque bien sûr que ça va solliciter nos politiques d'asile et on ne peut pas regarder les choses de l'extérieur, en fait. Il faut bien avoir conscience de ça.
Eh bien, écoutez, c'est plus qu'intéressant. Il va falloir développer ça de beaucoup plus qu'en 20 minutes. D'abord, vous êtes toujours avec nous, Najat ?
Oui, bien
sûr.
Ah,
voilà. Alors, vous avez entendu donc Benjamin développer. Alors, on va bientôt arrêter cette petite interview. On est au téléphone. Il nous reste 3 ou 4 minutes hein, pour que ça ne soit pas trop long. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est donc ce que vous développez et ce que vous essayez de nous dire. Comme je dis, nous, dans cette radio, on est là, on est un vecteur. On envoie vers les auditeurs, on envoie vers les citoyens. On espère les rendre plus intelligents de temps en temps, mais c'est difficile parfois, vu qu'ils sont noyés dans toute cette incompréhension. J'ai l'impression souvent que c'est fait exprès, quoi. On nous dit, oh, c'est trop compliqué pour vous, les citoyens. Vous ne pouvez pas comprendre les problèmes des réfugiés.
Non, vous avez raison. C'est à ce sujet-là qu'on veut s'attaquer. Et avec Najat, on a tout de suite été d'accord sur ce point-là. J'ai envie d'ajouter quelque chose. C'est qu'avec avec Najat, on a la chance d'enseigner tous les deux à Sciences Po Paris.
Oui, Sciences
donc
Po
sur
Paris.
Des, sur des sujets un petit peu différents. Mais j'ai eu le plaisir de recevoir Najat dans un cours qui s'appelle « Réfugiés de l'exil à l'intégration », qui est un cours que je donne à Sciences Po. Et donc, en gros, chaque année, je reçois à peu près 25 étudiants. Et je me disais, mais c'est quand même terrible qu'il n'y ait que 25 étudiants qui profitent
de ces choses-là.
Et donc, on en a discuté beaucoup ensemble avec Najat.
Tout
et on s'est dit, exactement, voilà, on s'est dit, mais ça ne peut pas rester dans une salle de cours. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi complet que 28 heures de cours et puis toutes les.
Bon, bien entendu. Et puis, même ça ne serait pas pour tout le monde. Il y a un moment, quand même, il y a un autre niveau, peut-être, de compréhension.
Non, c'est très. Là, on a proposé quelque chose de très grand public. Voilà. On a fait un vrai travail de vulgarisation sur des choses techniques. On a mis tout notre savoir-faire dedans. Pour que ça soit grand public et que ça aille clair en fait au maximum pour que les gens se fassent leur opinion eux-mêmes et sans la manipulation qui les assomme en fait aujourd'hui.
Oui, Najat, vous viendrez peut-être du côté de Montpellier pour présenter le livre, peut-être, je ne sais pas, à un moment donné ou à un autre, j'espère.
Ouais. Eh bien écoutez, on en serait absolument ravis, on pouvait venir en effet à la rencontre des lecteurs, il faut leur laisser le temps de le découvrir, comme ça ils nous feront remonter leurs commentaires, sachant qu'il y a une date qui approche hein, et qu'il faut avoir en tête, c'est que le 20 juin prochain, donc dans quelques jours à peine, c'est la journée mondiale des réfugiés, donc ce sera aussi l'occasion d'en parler.
Oui, bien sûr, et on en parle sur cette antenne aussi assez de ça. J'ai horreur de dire le mot problème, comme si c'était un problème.
Mais non, mais c'est pas un problème, c'est un fait social.
Vous voyez comme quoi on est manipulé, hein.
Ouais,
parce que quand on dit réfugié, on dit problème.
C'est juste un sujet parmi tant d'autres.
C'est un sujet qui mérite d'être bien étudié.
Et c'est un sujet mineur en réalité. Hein, quand on prend 130 000 personnes par an divisées par 68 millions d'habitants, c'est ce qu'on dit, on le rappelle évidemment. On dit mais voilà, ces chiffres-là, il faut les remettre en perspective. Et quand on compare à nos voisins européens, nos grands voisins européens, premièrement, on distribue moins de titres de séjour pour la politique migratoire. Ouais. Et en plus, en réfugiés, on est très loin d'être les plus accueillants sur ce sujet-là.
Non, on a vu notamment l'Allemagne et puis maintenant l'Espagne aussi.
Mais bien sûr.
Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais remercier d'abord Najat Vallaud-Belkacem d'avoir été avec nous au téléphone.
Merci,
Najat. Et puis quant à Benjamin, il est à côté de moi, donc c'est pas compliqué. Pour le remercier, c'est pas difficile. Bon, j'espère que les auditeurs ont bien apprécié ce moment de autour donc, des réfugiés, ce qu'on ne nous...
Dis pas.
Merci beaucoup en tout cas et à bientôt j'espère du côté de Montpellier.
Au plaisir, au revoir.
Au revoir.